dans le panier de Lisa. Lisa Giraud-Taylor.
Bonjour et bienvenue dans ce panier, dernier panier de juin. J'espère que vous survivez à la chaleur. C'est assez apocalyptique, alors je suis désolée, mais s'il y a quelques petits bruits, on a bien été obligé d'ouvrir la fenêtre, hein, parce qu'on est à la limite de la mort, là. Donc, alors le cerveau a fondu, on n'est pas sûr du reste. Enfin, le reste ne fond pas, hein. Vous pouvez manger, je pense, un morceau de melon et un morceau de jambon. Je sais pas pourquoi, vous buvez 15 litres d'eau, il n'y a pas d'évolution sur... Ah non, il n'y a pas d'évolution. Par contre, le cerveau fond bien quand même. Hein, et, ah là. Alors, au programme de ce panier, nous avons la pile à lire estivale, c'est-à-dire je vais vous dire tous les bouquins que je veux lire cet été. Je crois qu'il y en a 9. Et on finira par... mes recommandations pour la rentrée littéraire de septembre, enfin mi-août, fin septembre, parce que généralement maintenant ça s'étale carrément du 15-16 août jusqu'à la fin septembre. J'ai repéré des bouquins, il y en a au moins 5 ou 6 que je veux absolument lire, alors peut-être pas tous en septembre parce que ça fait quand même un beau budget, sauf si vous les empruntez à la médiathèque, mais la médiathèque a peut-être pas forcément tous vos choix non plus, donc demandez-leur, hein, si vous avez une médiathèque, une bibliothèque à côté de chez vous, peut-être qu'ils peuvent faire venir certains bouquins. Après, c'est la rentrée littéraire. Ah, ça va être un peu compliqué. Mais on n'est pas là. Après, les têtes de pont, vous les aurez sûrement. Hein, voilà. Mais moi, ce n'est pas les têtes de pont, vous verrez. Et on finira en chanson. Ça va être sympathique. Ça va être bien. Alors, au mois de juillet, il y aura forcément... je pense, hein, alors attendons, parce que vous savez, moi, le cerveau fond beaucoup. Donc, Lutin, tu peux me passer le papier? Non, parce que préparer le papier et Lutin, et j'ai oublié. Alors, il y aura un prochain panier. Le prochain, ça sera aussi un panier. Ça sera un panier résumé ciné, série, ce que j'ai vu qui allait arriver, machin, avec beaucoup de musique. Et le dernier panier sera le 14 juillet. Je vous ferai un spécial bal. Ah oui, oh bah oui, voilà, alors attendez-vous à vous tenir aux branches, vous savez que Lisa et ses goûts musicaux, hein, vous n'êtes pas à l'abri d'une horreur. Cet été, je pense qu'il y aura des rediffs d'anciennes émissions, du coup, vous ne me perdrez pas en route, mais moi, je serai en train de bosser, hein, voilà, et de suer et de mourir, voilà. Et on se retrouve en septembre, et début septembre, je pense, la première émission de septembre, enfin le premier lundi de septembre, et ben voilà, on vous expliquera ce que nous allons faire, puisque nous allons avoir une petite modif. Oh là, oui, oh ben on se calme, voilà. Alors on va commencer la musique. Alors attention, le choix des chansons n'ont aucun rapport avec... ah ben non. Aucun rapport, on a mis... on a piqué... au hasard des chansons, on a fait une liste de combien il y avait, 20, 21 chansons, et on a voté. Voilà, on a fait The Voice, et on a choisi 5 chansons, voilà. Allez, on commence tout de suite par Mano, oh là là, la tribu de Dana, ça va nous... Ah bah ça nous ramène quand on était jeune et beau, et on se retrouve tout de suite, juste après, pour les livres de juillet, et puis après il y aura ceux de août, évidemment.
Sur les plaines de la Bretagne armoricaine, je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana.
Oh,
Incantation de druide et de magie. Tout attribut le glaive en main courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des armes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant, de férocité extrêmement plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana. On entendait le son d'une corne, d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et qu'à la tribu de Dana appartenait ses terres? Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi. Mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana. De la tribu de Dana, je suis devenu roi. De la tribu de Dana, je suis devenu roi.
C'était donc Mano avec la tribu de Dana. Alors, au programme de l'été, vous allez voir, il y en a un peu pour tous les goûts. Alors, sachant qu'il y a quand même deux ou trois livres qui traînent hein, dans ma pièce à lire depuis 3-4 ans. Oh, ça va, 5 peut-être. Il faut vraiment que je les finisse parce que c'était vraiment en plus deux d'entre eux étaient la suite d'une série que j'adorais. Quelquefois, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous achetez un livre, vous adorez la série, vous achetez toute la série et vous finissez pas le dernier tome. Voilà. Ah bah le, oui, ah bah le cerveau a fondu avant. Oui, oh merci le lutin. Sympa comme réflexion. Oh, je vous dis, ça, on va pas finir l'été. Il fait trop chaud. Alors, au programme, nous allons avoir un livre régional, deux, trois livres régionaux, régionaux, si vous voulez. Oui, ben, c'est un livre régional, donc oui, trois. Le premier, ce sera La Sense aux Alouettes de Marie-Paul Armand. J'en avais parlé quand j'avais pas lu au mois de février La Poussière des Corons. Alors, cette fois-ci, on est dans les fermes du Nord, donc dans les Sens, et Mélanie, en fait, doit épouser Jean-Pierre, qui est le voisin de son village, vers la fin de l'été 1914. Malheureusement, le 1er août, la France rentre en guerre, et donc Jean-Pierre va rejoindre son bataillon, comme des millions d'autres hommes, et il va avoir une permission un an plus tard. Alors, comme ils ne peuvent pas encore se marier tout de suite, ils mettent un peu la charrue avant les bœufs. Méthode. Et Jean-Pierre repart au front, il y tombe et Mélanie donc va se retrouver seule dans ce petit village et avec un enfant à naître. On imagine bien, voilà. Alors attention, c'est vraiment les quelques années pendant la guerre de 14, etc., dans le Nord, dans ses sens, donc dans ses fermes dans le Nord. Donc voilà, je vous dis, moi j'ai eu des très très bonnes lectures dans les romans régionaux. Je savais que c'était très bon parce que j'en ai lu quand même quand j'étais plus jeune. Mais là franchement, honnêtement, je vous encourage à lire des romans régionaux. Ensuite, je vais enfin finir la trilogie, la tétralogie des origines, donc de Stefan Spielbergski. Alors, nous sommes dans une espèce de science-fiction historique, puisque nous sommes en fait au cœur du Troisième Reich, mais pas du tout dans celui qu'on connaît, puisque dans les trois premiers tomes, pour faire gros résumé, puisque là on est en 1942 dans celui-là, dans le dernier, nous avions un ancien SS, enfin un SS qui s'appelait Sachshauser, qui avait suite à une découverte dans le cœur du Kurdistan irakien, trouvé une puissance extraterrestre, en tous les cas, qui avait un pouvoir, évidemment, de changer le cours des choses. Voilà. Alors là, quand le quatrième commence, le crépuscule des dieux, donc c'est le quatrième tome de la saga et l'ultime, eh bien, nous avons Reinhard Heydrich qui est à Prague, qui a été grièvement blessé, ça c'est la vérité historique, qui se meurt, et en fait, le roman dit « à moins que, effectivement, puisqu'en fait, le monde est à feu et à sang, l'humanité se consume de tous les affres de la guerre, et Sachshauser refuse ce futur et décide d'utiliser plus ou moins cette arme. Mais est-ce qu'il va arriver? Parce qu'il y a beaucoup de complots, etc. Et est-ce que ce ne serait-ce pas le crépuscule des dieux? Oui, référence à Wagner. » Voilà, donc ça, c'est le deuxième que je lirai. Troisième, on va rester dans les méandres sombres de la Seconde Guerre mondiale, mais côté d'une passion qui m'anime depuis que je suis tout petite, oui, depuis que j'ai 4 ans, le foot. Oui, ah bah je sais, hein, moi ça vient pas depuis hier. Alors je vais lire Le Brassard de Luc Briand. En fait, c'est une biographie sur un footballeur dont j'ai entendu parler énormément par mes grands-pères, qui l'avaient vu jouer, qui s'appelle Alexandre Villaplane. Alors, c'est un gamin qui a grandi dans les quartiers très populaires de Alger, et cet amateur, en fait, va être recruté en métropole, et c'est vraiment, comme mes grands-pères disaient, c'était vraiment un buteur de classe. Il avait des gestes techniques pour l'époque qui étaient vraiment audacieux. Il régale tout le public français. D'ailleurs, il va même arriver à être le capitaine de l'équipe de France lors de la première Coupe du Monde de l'histoire en 1930. Simplement, quand la Seconde Guerre mondiale va arriver, eh bien, il va devenir un officier nazi. Voilà. Donc il y est passé vraiment de l'ombre, de la lumière à l'ombre, de la beauté à l'horreur. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un dont j'ai entendu parler, dont j'ai lu des choses sur sa vie, etc. Mais voilà, je me disais, ce serait quand même pas mal de replonger dans ces années 20, 30, 40, mais point de vue d'un homme qui a eu une trajectoire assez étrange. Voilà. Alors on fait une petite pause musicale avec Mademoiselle, la regrettée, Françoise Hardy, et avec son message personnel. Et on se retrouve juste après pour la suite de juillet et août.
Du téléphone, il y a votre voix, et il y a les mots que je ne dirai pas, tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire, et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas, je veux, je ne peux pas. Je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps pour vous, j'ai tout le mien. Je voudrais arriver. Je reste. Je me déteste. Je n'arriverai pas. Je veux. Je ne peux pas. où je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème. Et cours, et cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, car tu ne sais pas où la vie t'amène. Viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi.
C'était donc Françoise Hardy avec Message personnel. Alors on va aller sur deux autres romans. Un roman qui m'a été grandement recommandé parce que ça faisait des années que je voulais lire Ivo Andrić. Et une de mes copines auteurs m'a dit « Ah non mais celui-là tu dois absolument le lire parce qu'en plus je pense que ça cadre pile tout ce que tu aimes ». Ça s'appelle « Le pont sur la Drina ». Donc nous sommes à Visegrad, qui est un pont qui relie les deux rives de la Drina. D'un côté la Serbie, de l'autre côté la Bosnie. En fait, d'un côté ce qu'on peut appeler l'Orient et de l'autre côté l'Occident. Et qui concentre depuis le XVIe siècle toute la vie des habitants. Que ce soit des chrétiens, des juifs et des musulmans de Turquie. Tous là, tous s'affrontent, ça joue aux cartes, ça écoute les proclamations des maîtres successifs du pays, des Ottomans jusqu'aux Austro-Hongrois. Bref, c'est un roman que j'ai vraiment très envie de lire et qui en plus, effectivement, traite de choses qui m'intéressent. Et on revient au roman régional avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un Aveyronnais, qui est vraiment, si vous avez l'occasion de le lire, un auteur qui est édité pratiquement que chez Rouergue, qui s'appelle Daniel Kroes. Il a vraiment des très 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 beaux romans. Et là, ça s'appelle La Messagère de l'Ombre. Nous sommes en 1940 dans un bourg du sud-ouest, donc souvent en Aveyron, hein, parce qu'il est très... il a raison, il vante sa très belle région, son très beau département. Nous sommes avec Pauline, qui est la fille du pharmacien, qui est tout juste mariée, qui va apprendre la mort de son mari au front. Et cette jeune femme, en fait, qui n'avait aucune velléité de faire quoi que ce soit, malgré l'entrée en guerre l'invasion de la France, elle va se retrouver à faire des petites actions au début de résistance. Et elle va nouer une relation amoureuse avec un des conservateurs du Louvre qui est en fait qui a accompagné quelques œuvres qui ont du musée qui ont été déplacées. Comme vous le savez, le Louvre a fait partir des camions entiers n'importe où en France pour pouvoir planquer les œuvres d'art les plus sensibles, on va dire, du Louvre, pour pas qu'elle soit que l'Allemagne nazie prenne la main là-dessus. Et donc elle va aider la résistance de plus en plus, etc. Alors Daniel Krause avait déjà mis en honneur, à l'honneur, en fait, une partie de la Seconde Guerre mondiale. Alors l'après-Seconde Guerre mondiale, mais des hommes qui étaient partis au STO et qui, quand ils étaient rentrés, avaient été accusés d'avoir collaboré avec l'Allemagne nazie, ce qui est mal connaître le STO, hein, on est bien d'accord sur la question, mais avec un très beau roman qui s'appelait Lendemain de Libération, et donc là, ça s'appelle La Messagère de l'Ombre, et là, il parle plus de ceux qui ont dit non à l'occupation, même au péril de leur vie, à travers donc l'itinéraire de Pauline. Ça, c'était pour les livres, donc, normalement, de juillet. Alors, au mois d'août, vous allez voir, j'ai été assez légère. J'en ai pris 4. Parce que je me suis dit que, comme il y avait la rentrée littéraire qui arrivait, il y en a 2 qui arrivent, d'ailleurs, le jour de mon anniversaire, qui sortent le jour de mon anniversaire. Donc, c'est 2 que j'ai retenus et que j'ai vraiment très, très envie de lire. Mais voilà, peut-être que je les commencerai avant la fin août. Alors, on va faire une nouvelle pause musicale. Et alors là, avec une chanson qui est de circonstance. Hein, le lutin? Oui, bien sûr. Alors, celle-là, elle a été unanime. La The Voice, les 2-là, on s'est retournés comme 2 fous. On a dit, ouais, celui-là, celui-là. Les négresses vertes. Voilà les. Ben là, voilà la canicule, hein, plutôt. Enfin, voilà la. Oh, c'est pas possible, on va crever. C'est depuis le 19 juin, il faut que ça s'arrête. Hein. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Hein. On peut pas aller plus haut. Si, plus haut, mais on va essayer d'aller. Enfin, on aimerait bien aller plus bas, surtout. Parce que, voilà. Allez, négresse verte, et après, on attaque août, et on finira, bien sûr, par la rentrée littéraire. Cherchez un carnet, des petits stylos, des petits trucs, parce que peut-être vous allez noter des livres qui vont vous intéresser.
J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles. Les dieux sont ravis. Le métro sud tout devient purulent dans ses souliers. Le passager abruti a dit boîtier qui s'exprime violemment. Y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Le soleil m'a basourdi. Riez sous les bras, j'avance dans la rue. J'pense à ces cons qui seront chiés dans le lit. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger. j'ai ça foutu. Vivement l'automne, je me sens tout aiguillé. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête, tu bourdonnes les abeilles, j'entends rougir les plaisirs de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis. Voilà l'été,
voilà l'été.
C'était donc les Négresses Vertes avec Voilà l'été. Alors, au mois d'août, on va reprendre un peu de livres régionaux et cette fois-ci, on va être en fait toujours dans le Nord. Hein. Bah, écoutez, c'est ce qu'on m'a proposé au début de l'année. Il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé des livres qui allaient qui parlaient de thématiques du Nord. On est avec Les Enfants de Gaillan de Emmanuel Prost. Alors, c'est un homme, hein, Emmanuel avec un seul L. Hélène, donc, qui est infirmière, en fait, se rend au chevet de sa maman qui est malade, et elle apprend en fait sur le lit de mort de sa maman que sa maman n'était pas sa maman, c'était pas sa génitrice, et son père donc va lui expliquer en fait l'aventure de sa naissance et le fait que sa vraie mère biologique sa mère biologique a été internée dans un asile et qu'elle est morte dans un incendie qui a suivi. Alors elle est embauchée, Hélène, elle est à l'hôpital de Douai. Elle va y rencontrer un copain d'enfance, qui est d'ailleurs juste revenu du front de la Première Guerre mondiale. Et un jour, lors de la reconstruction des géants de Douai, hein, vous savez, c'est ces grosses marionnettes immenses qui parcourent la ville, donc les Gaillans, Hélène, qui est dans la foule avec son pote d'enfance, semble effrayer un homme dans la foule. Qui est un très généreux donateur de la ville, qui s'appelle Auguste Bellecour, et qui semble avoir arrivé un fantôme face à lui. Et donc, on va découvrir et effectivement ce qui se cache derrière le fait que cet homme a eu la frayeur de sa vie en voyant Hélène. Voilà. Ensuite, autre livre qui sortira donc de ma pile à lire, qui traîne depuis 5 ans, ça s'appelle « Agent double ». De Daniel O'Malley. Alors, c'est la suite de Au service surnaturel de Sa Majesté, qui m'avait fait hurler de rire, mais vraiment hurler de rire. Nous sommes donc dans Londres, dans un côté assez surnaturel. D'un côté, nous avons une organisation secrète qui s'appelle la Tchéquie, qui est là pour combattre les forces surnaturelles qui menacent la couronne britannique. Et puis, il y a des agents, évidemment. Il y a une très fantasque héroïne de The Rock, qui est une autre entité de défense qui s'appelle Fawi Thomas, et qui est là un peu pour essayer de réconcilier les deux camps. Et nous allons avoir des nouveaux protagonistes, donc les greffeurs, qui sont une société un peu pas recommandable du tout, d'alchimistes belges qui décident de faire des manipulations génétiques en tout genre et donc sans aucun contrôle. Et les autres, les mystérieux antagonistes qui, en fait, tentent par tous les moyens de faire échouer toutes les négociations possibles entre The Rock et la Tchéquie. Voilà, on a droit à des sous-marins informes, des monstres en tout genre. En fait, c'est un genre de James Bond fois Men in Black. Et c'était vraiment le premier qui était au service surnaturel de Sa Majesté était absolument délirant. C'est de l'humour survitaminé, c'est marrant, c'est complètement fantasque, mais vraiment fantasque à mort. Et là, Agent Double a l'air d'être vraiment parti sous la même trente, puisque la guerre surnaturelle sera ou ne sera pas, c'est à peu près le résumé du livre. Hein, donc voilà. Et ensuite, alors attention, là on rentre dans les livres d'histoire. Vous savez que je ne peux pas vivre sans livre d'histoire. Alors c'est une énième biographie de Hans Guderian. Alors ça fait, il fait partie des maréchaux que je suis depuis que je suis petite et dont j'ai lu beaucoup de choses. Mais c'est quand même Jean Lopez qui rassemble des documents et des choses dont il a eu, enfin qui sont sorties pour le public. Donc quand même, il y a toujours des documents qui sont déclassés et donc voilà, ça nous apporte d'autres choses, notamment par exemple les plus de 3000 pages de correspondance entre Guderian et son épouse Margaret qui ont été écrites entre 1912 et 1948. Et donc avec cette documentation, Jean Lopez, qui est quand même un spécialiste du coin et de cette période-là, revient sur cet homme qui est, alors sans contexte, un stratège militaire sans aucun problème, hein, ça, il n'y a aucun souci, mais qui, parce que bon, on rappelle que c'est quand même lui qui a crucifié la France en 40, hein. Ah bah si, à Sedan quand même, ah bah si, on s'en rappelle, enfin on n'y était pas, mais on s'en rappelle, voilà, mais qui, voilà, c'est quand même à lui qu'on doit plus ou moins les diversions de Panzer qui ont fait trembler, en tous les cas, l'Europe. Mais il avait un côté aussi noir, puisque c'était quand même quelqu'un qui était assez odieux avec ses collègues, très très égoïste, qui était un fin stratège, et qui d'ailleurs, malgré le fait qu'il ait servi ce régime-là, bah, il va s'en tirer sans la moindre peine lors du procès de Nuremberg. Hein. Voilà. Donc c'est quand même quelqu'un qui, voilà, qui est quand même assez ambigu, mais c'est quand même c'est un militaire et un homme qui sont très intéressants à étudier. Voilà. Donc ça s'appelle Hans Guderian, le maître des panzers de Jean Lopez. Et enfin, dernier livre que je devrais lire cet été, ça s'appelle La vallée des ombres de Xavier-Marie Bonneau, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Il a une plume absolument extraordinaire. Nous sommes avec René, qui en fait est une machine de guerre. Il a fait pratiquement 20 ans dans la Légion. Il revient dans son petit village natal au fin fond d'une vallée industrielle qui est en train d'être dévastée par la crise. Il a un peu la rage au cœur et voire la haine pour certaines choses. Et ben, quand il va revenir sur les places, forcément les ombres de son passé vont arriver. Alors évidemment son père, qui est l'ancien patron de la CGT locale et qui a été absolument tyrannique avec lui et qui est un brin désabusé. Son ennemi d'enfance qui est devenu le flic, un de ses amis proches qui a basculé dans le grand banditisme, et aussi la femme qu'il a aimée mais qu'il a abandonnée. Voilà, donc écoutez, sous la plume de Xavier-Marie Bonneau, ça ne peut être que bon, hein, voilà, ça s'appelle La vallée des ombres, donc on verra bien ce que cela donne. Alors on va faire une petite pause musicale, évidemment, et après on se retrouve pour vraiment bah, tous les livres, je vais les citer. Vous dire à peu près peut-être de quoi ça parlait encore. Je pense que c'est assez certains sont quand même assez parlants, ne serait-ce que de leur on va dire de leur thématique ou de leur titre. Voilà, donc on se retrouve juste après une très jolie chanson qui parle de maisons de vacances, et ceux qui auront la chance d'avoir une maison de vacances, et bien vous allez voir, on ne peut être que touché par cette jolie chanson de Michel Sardou qui s'appelle donc La maison de vacances.
Dans la maison de vacances, il y a un jardin fleuri, un saule pleureur qui danse au milieu des orties, un grenier plein d'enfance et un vieux parapluie. Dans la maison de vacances, le temps est à l'abri. Une girouette se balance au vent des vendredis. Les assiettes de faïence sont dans un buffet gris. Dans la maison de vacances, y a des fantômes exquis. Se souviennent des romances sous la lune à minuit. On vient quand on y pense depuis qu'on est tout petit. On vient pour les vacances en famille, entre amis. Pierre est avec Florence et Florence avec Louis. Dans la maison de vacances, on dort l'après-midi. maison de vacances, on joue au gin rami, on lit Anatole France, quelquefois on s'ennuie, l'horloge prend de l'avance, le rosier arrosit, dans la maison de vacances, c'est tellement loin Paris. On fredonne douce France en cueillant des radis. Une nouvelle d'importance, c'est que le chêne a grandi. Dans la maison de vacances, on s'envie d'être en vie. Tant que les souris dansent, le chat qui dort sourit. J'espère que le vieux traîner ne me fera pas d'ennui. Cette musique, il est vrai, ressemble à ce qu'il fit. S'il exige un procès, je le perdrai, tant pis. La maison s'en irait, je n'ai pas payé le crédit. Je sais qu'il sait d'avance que tout a été dit. Et quand les souris dansent, le chat qui dort sourit.
C'était donc La maison de vacances, donc de Michel Sardou. Alors, cette rentrée littéraire, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, j'ai repéré des essentiels, des outsiders et en vérité, 5 autres qui vont y passer. Cette année, j'ai décidé, parce que c'est quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même un budget, hein, la rentrée littéraire. Et si vous arrivez à lire tout ce que... Enfin, si je voulais lire tout ce que j'ai récupéré, donc pratiquement 4... on en est à 13. Ça fait quand même une bonne petite moyenne sur votre budget, ce qui est quand même... c'est pas possible. Voilà. Alors, il y a des essentiels. Il y a au moins 3 qui vont y passer, mais automatiquement entre septembre et octobre, voire 4 et 5 qui seront étalés septembre, octobre et peut-être début novembre. Et ensuite, les autres seront étalés, je pense, jusqu'en février, comme j'ai fait cette année. C'est-à-dire, j'ai fini mon dernier rentrée littéraire, c'était mars. Voilà. Et je me suis dit que c'était une bonne idée. En plus, quelquefois, on peut les trouver à la bibliothèque plus facilement, à la médiathèque plus facilement, parce que ils sont sortis, ils rentrent, les gens les demandent, et sur les mois, vous les voyez arriver. Alors... les deux, c'est sûr que je vais lire et c'est obligatoire. C'est Aux Forges de Vulcain, les deux. Le premier, c'est Les Promesses orphelines de Gilles Marchand, dont j'avais adoré Le Soldat désaccordé, qui faisait partie vraiment de mes préférés de l'année. Honnêtement, voilà, c'est très rare, très très rare que je ne lise pas un Gilles Marchand. Et vraiment, c'est quelqu'un qui a une plume et d'une poésie absolument magnifique, et toujours avec des histoires vraiment très 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 belles. Donc il n'y a pas de raison que je ne le lise pas cette fois-ci. Deuxième, sur Les Forges de Vulcain, ça s'appelle Doppelganger. C'est de Gérald Guis. Alors Gérard Guis, c'est un auteur catalan, qui a une plume absolument... magnifique. C'est un dramaturge, on peut dire que c'est un dramaturge. Alors moi, honnêtement, j'ai lu deux de ses livres. Un qui « Tout ce que tu devrais savoir avant d'aimer » et surtout qui avait été mon coup de cœur en 2019, « Le cimetière », qui était vraiment absolument une pure merveille. Voilà. Donc il arrive avec ce livre-là, qui est un livre qu'il porte depuis presque 17 ans. Il y a beaucoup d'éditeurs qui ne voulaient pas trop y aller. Et donc en fait, on est à Berlin en avril 45 et Hitler est donc terré dans son bunker. Et son entourage décide de fêter son anniversaire. Et ça part d'un truc vrai. et Goebbels décide de trouver le cadeau idéal, l'horoscope du Führer. Sauf que, ils se sont trompés, en fait, puisque à 4 jours près, un autre célèbre homme qui a ironisé sur Hitler lors d'un film qu'on connaît, qui s'appelle Le Dictateur, c'est Charlie Chaplin. Voilà. Et de là, Gérard Guis va tirer une fable assez ironique, etc., mais avec sa plume à lui. C'est une pavasse, hein, quand vous voyez la bestiole, c'est une belle pavasse, mais que voulez-vous, c'est pile la période que j'aime, et en plus, c'est une plume que j'aime, et je fais confiance vraiment beaucoup, tout le temps, aux Forges de Vulcain, qui a vraiment des parutions absolument fantastiques, donc il n'y a pas de raison. Et l'autre qui est sûr d'être essentiel, ça s'appelle Adieu Colima de Antoine Sénanque, dont j'avais adoré Croix de Cendre. Là, on est dans la Colima, donc dans le Grand Est sibérien, aux confins vraiment extrêmes de la Russie, où quelquefois il peut faire moins 60. Et c'est un roman qui va parler en fait de ces internés qui vont devenir des goulags, qui vont devenir des bras armés, des truands et des hommes du KGB, enfin du NKVD à l'époque. Et voilà. Et donc le roman commence en 1956, 3 ans après la mort de Staline, quand les camps commencent à disparaître et tous ces personnages, qu'est-ce qu'il va leur arriver puisqu'ils vont être relâchés des camps et qu'est-ce qu'on fait malheureusement quand on est un ancien du goulag et qu'on a complètement disparu entre guillemets pendant des années dans la Colima. Voilà, donc ça c'est sûr que c'est les trois que je lirai. Ensuite j'ai repéré un autre qui s'appelle Jeanne avant Jeanne de Alec Medieff. C'est aux éditions. Alors Colima c'est chez Grasset hein, tout le temps. Enfin c'est Nantes, c'est chez Grasset. Jeanne avant Jeanne c'est chez Archipel. Alors évidemment. De quoi on va parler? De Jeanne d'Arc. Hein. Alors là, franchement, je ne peux pas faire mieux. Hein. Voilà, Jeanne d'Arc. Voilà. Alors, est-ce que... moi, on m'annonce un roman assez malicieux et parfaitement plausible, en fait, de cet ado qui a été capable d'imposer sa volonté à des soudards, hein, qui avait un caractère plus que bien trempé et qui, un jour... qu'est-ce qu'elle était avant qu'on la rencontre, Jeanne, on ne sait pas. Donc, en fait, l'auteur a décidé, avec une certaine ingéniosité, hein, visiblement, de fendre l'armure de cette Jeanne pour savoir ce qu'elle avait fait quand elle était ado. Voilà. Je pense que ça va être sympa, quand même. Hein. Je le sens bien, celui-là. Voilà. Et autre livre, alors ça, c'est une suite. Alors, c'était évident, parce que j'ai beaucoup aimé Chien 51 de Laurent Godet. Donc, ça, c'est Actes Sud. Et cette fois-ci, le roman s'appelle Zem. Alors Zem, si vous vous rappelez, c'est le prénom du héros qui s'appelait Zem Sparak, et donc avec Salia, et qui était donc dans cet univers dystopique de la Maniapole, et donc évidemment la suite de Chien 51. Franchement, ce second volet, c'est vraiment une critique très acerbe et très cynique de nos sociétés modernes, enfin post-modernes. Voilà, donc qu'est-ce qui va être possible, une résistance dans cette fameuse mégapole? Voilà, donc ça c'est vraiment les 5 que je trouve essentiels. Ensuite, j'ai repéré, alors il y en avait un en janvier, que j'avais repéré en janvier, mais que je n'avais pas lu et que j'ai remis dans cette histoire-là, parce que là je me suis dit non mais tu peux pas ne pas le mettre, voilà. Parce que quelquefois, quand même, vous avez des livres, vous vous dites « Ah ouais, non, mais là, quand même, tu peux pas passer à côté de ce livre-là. » Donc, ça s'appelle « Le passage » de Andrzej Staszczuk. On est en juin 41, à l'est de la Pologne, et en fait, les Allemands sont en train de repasser par là, puisqu'ils vont déclencher l'opération Barbarossa. Et tous les villageois, en fait, les villageois essayent de se débrouiller comme ils peuvent pour survivre, hein, parce qu'ils étaient déjà venus la première fois, ils avaient élagué beaucoup de choses. Et dans la forêt abritent des jeunes masquisards complètement expérimentés qui se prennent en fait pour des vrais soldats. Et donc, il fait chaud, on est en juin, l'armée allemande déferle là-dessus et il y a un petit garçon qui va tout voir. Voilà, des grondements des avions jusqu'aux bombes, aux pillages, etc. Et donc, ce roman reconstitue l'histoire, en fait, du père de l'auteur qui va livrer cette version-là du départ pour l'opération Barbarossa. Autre livre que je vais lire, et là, vraiment, c'est un livre qui m'a vraiment attiré tout de suite. Alors, c'est toujours sur Actes Sud, hein, pardon, le passage. Ensuite, il y a Le Ministère des Rêves, qui s'appelle de Momchil Milanov, qui est, en fait, véritablement un conte initiative et une femme politique, puisque en fait nous sommes dans un endroit où un ballon dirigeable qui s'installe dans le ciel de cette ville. Et malgré le fait qu'il y ait des gens qui connaissent tous les rouages de cette histoire, personne ne sait pourquoi ce ballon est là. Et seul un petit garçon va percevoir le danger de ces bicéphales et pourquoi il y a des dangers qui arrivent et ce petit garçon va se réfugier un peu dans l'imaginaire. Alors est-ce que c'est lui qui va pouvoir sauver ces personnes, ces générateurs de rêves, ou est-ce que c'est inventé? Voilà, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré. Autre, c'est la violoniste de Ferdinand von Saar. Alors Ferdinand von Saar, c'est quand même un poète, dramaturge et novelliste autrichien, c'est quand même des récits assez désabusés. Moi, j'ai lu Le Château de Kostenitz et Le Lieutenant Burda, et vraiment, j'avais beaucoup aimé. Donc, quand j'ai vu celui-ci, je me suis replongée dedans. Alors, c'est l'histoire, en fait, d'une jeune violoniste, un soir, à Vienne, lors de la saison des bals, et en fait, on est dans cette société assez particulière où beaucoup d'hommes veulent absolument reconquérir le cœur de cette jeune femme, donc de Ludovica. Ensuite, vous avez un rêve de feu. Donc c'est le dernier Eric Larson qui cette fois-ci se plonge en novembre 1860, donc quand Abraham Lincoln devient président des États-Unis, et 5 mois plus tard, la guerre de sécession va faire rage. Voilà, donc il a décidé de suivre cette histoire-là avec évidemment tout ce qu'on peut voir dans cette guerre de sécession, en plus de ce que peut apporter Rick Larson dans ce genre de choses. Et La Chambre d'Orwell. Alors, ça s'appelle le livre de Jean-Pierre Perrin, pardon. Ferdinand von Saar, je ne sais plus chez qui c'est. Ah, grande question. Ah, alors, il faudrait peut-être que je vous dise, si ça vous intéresse, et que vous puissiez aller pleurer auprès des médiathèques et des bibliothèques. Le ministère des rêves, c'est chez les Argonautes. La violoniste, je crois, c'est chez les éditions Bartillard, je crois. Et donc un rêve de feu de Eric Larson, c'est chez Cherche Midi, ça c'est évident. Et La Chambre d'Orwell, c'est chez Plomb. Alors là, c'est véritablement les arcanes de la création de 1984, puisque George Orwell va partir sur une île écossaise en 1946. Il est malade, hein, il a atteint de la tuberculose. Les médecins lui disent de ne pas s'éloigner d'un hôpital. Il s'en fout, il s'en va. Et il va y rester quelques années, hein. Voilà, puisqu'il va arriver en vérité au mois de mai 46, il va y repartir en janvier 49, mais il a fini son 1984, sachant qu'il va mourir d'ailleurs un an plus tard, son retour de la tuberculose à l'hôpital. Voilà. Donc ça, c'était évident que La Chambre d'Orwell allait m'attirer, puisque forcément, je suis une grande fan d'Orwell. Et il y a 3 livres, on va dire, les Outsiders, oui, que je vais juste vous citer, qui s'appelle 1. Les Hommes du Shetland de Malachy Talak, qui sera aux éditions Buchet-Chastel. On est sur un bateau de chasse à la baleine en 1957. Ensuite, il y aura sûrement Caledonian Road de Andrew O'Hagan chez Métayer, où on est en fait dans une... on va dire dans un contexte d'historien d'art qui va connaître un succès très 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 important à propos de Vermeer. Mais voilà, il y a une petite erreur et il va falloir trouver ça. Et ensuite, il y a un essai qui s'appelle « Sa Majesté du Carnage » de Philippe Lobjoie, qui en fait parle de la guerre qui comme un voyage dans le temps, puisque en fait malheureusement même le plus grand courage ou la plus grande cruauté, tous les temps ont connu des guerres, et voilà, c'est vraiment un livre sur ce genre de choses, c'est vraiment un essai sur ça, et ça ne peut que, on est d'accord, m'intéresser. Voilà, donc ça c'était toute la rentrée littéraire. Donc s'il y a des bouquins qui vous intéressent, n'hésitez absolument pas à aller vous dire, soit à la librairie, hein, vous les achetez si vous avez budget, sinon vous allez à la médiathèque, à la bibliothèque, voilà, ou sinon vous faites comme certains font. Moi je l'ai fait il y a quelques années avec des copines et des copains qui lisaient. Moi j'achète celui-là, toi t'achètes celui-là, et après on se les prête, voilà, parce que comme vous dites, hein, voilà, et puis en plus on aura fini l'été, Ouh, on sera peut-être à sec à ce moment-là. En plus, la rentrée, les écoles, les machins, la rentrée, c'est toujours un peu compliqué. Les sous, les impôts. Oh, punaise. Oh là 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 là. Bon, bref, on n'y pense pas. On est juste au début de l'été. Enfin, en tous les cas, on est dans l'été déjà. Mais juste au début de ce que, plus ou moins, les 3 mois où les gens vont prendre des congés, c'est-à-dire juillet, août et septembre. Voilà. Oui, ceux de juin aussi, mais bon. Allez, on se quitte en musique. Nous, on s'occupe de vos petites oreilles sur Liberté FM. Vous vous occupez de vous, de vos proches, de ceux que vous aimez. Et on se quitte avec une chanson de circonstance. Oui, bah, ça nous est venu tout de suite au cerveau, lutin. Élégance, vacances, j'oublie tout. Non, vous n'oubliez pas que la semaine prochaine, nous nous retrouvons pour un espèce de petit panier un peu fourre-tout. Hein, et le 14 juillet pour le bal. Et ensuite, bah, on vous laisse tranquille jusqu'à la fin août. Allez, bisous, bisous. À bientôt, à la semaine prochaine et élégance, vacances, j'oublie tout. Enfin, n'oublie pas de lancer la chanson, surtout. Hein, lutin?
J'ai la montre arrêtée, j'ai même pas l'heure qu'il est. Le téléphone a sonné, je me suis pas réveillé. Direction salle de bain, je me fais couler un bain. Regardant le miroir, pas beau à voir. En retard sur l'horaire, plus besoin de se presser. Radio libre allumée, top, pas de publicité. Une chanson bien cotée, c'est le tube de l'été. Me fait flipper de la tête aux pieds. Je commence à ranger, car ce soir terminé. Je serai sur la route avec bison futé. Je suis pas seul à rêver du ciel des palmiers. Et des jours sans problème, c'est la vie que j'aime.
Besoin de penser, on ne peut pas résister. Restaurant, boîte de nuit, tout ce qu'on a envie. On peut manger à minuit et se coucher à midi. Plus de temps, plus d'horaire, les vacances c'est super. Allongé sur le sable et bercé par les vagues. Petit corps bronzé, dévêtu de moitié. À l'abri du soleil, sous ton chapeau de paille. Tu te fous des regards qui se posent sur toi. Je m'approche près d'elle, je souris et lui dis: qu'est-ce que vous faites ce soir? Rien de précis, elle me dit: petite boîte de nuit, soirée champ et whisky. Ambiance folie toute la nuit.
Folie légère, vacances, j'oublie tout, plus rien à faire.